Le pasteur Roland de Pury n'aurait certainement pas aimé qu'on lui rendît hommage. Telle n'est d'ailleurs pas l'intention du service de radio des églises protestantes de la Suisse romande. Car en reproduisant ici les trois prédications qui vont suivre, nous avons simplement voulu mettre à disposition du grand public ce vivant témoignage rendu à la seule autorité et à la souveraineté de la parole de Dieu. C'est 2 ans avant sa mort, survenue le 24 janvier 1979, que le pasteur de Pury a été, pour 3 dimanches, l'hôte de la paroisse de Cologny à Genève. D'entente avec elle et notre service, qui avait inscrit ces 3 cultes à son programme pour le compte de la radio suisse romande, le prédicateur a choisi les sujets de ses réflexions en les empruntant aux symboles de Nicée et Constantinople, qui confessent notre foi en une seule Église, universelle et apostolique. Ces prédications trouvèrent un écho considérable, si l'on en juge aux très nombreuses demandes venues de notre pays roman et de la France voisine, de la part des auditeurs qui désiraient en relire le texte. Si le pasteur de Pury fut mieux connu et apprécié outre Jura et outre-mer que chez nous, en Suisse, son pays d'origine, c'est qu'il passa tout son ministère auprès de nos coreligionnaires de Montcoutan au Poitou, de Lyon, de Douala au Cameroun, de Tananarive, de Tahiti et enfin d'Aix-en-Provence. Partout, il les a rencontrés, écoutés, enseignés, exhortés avec le même zèle, celui que lui dictait sa foi passionnée. Tour à tour pasteur, catéchète, écrivain, missionnaire, professeur et aumônier d'étudiants, Roland de Pury, comme l'a écrit admirablement le professeur André Dumas dans Réforme, Roland de Pury a été pour notre génération le prédicateur du tranchant de la parole, l'amant passionné des cris de la culture, la sentinelle révoltée des injustices et des mensonges de l'histoire. Qui pourrait dire, l'ayant une seule fois entendu et connu, qu'un disciple de Karl Barth court-circuite la culture ou se démobilise de la politique sous prétexte que le salut de l'homme et du monde est déjà accompli en Jésus-Christ, alors que c'est cet accomplissement qui donne à l'homme le courage de ne biaiser ni avec la douleur, ni avec la joie. Mais nous en avons déjà peut-être trop dit. Laissons-lui à présent la parole. Cette parole qu'il a conduit toute sa vie pour rendre le témoignage de la fidélité et de l'obéissance. Chacun pourra, maintenant, s'en faire une idée personnelle, pour dire à son tour sa reconnaissance au maître de notre destin.
Écoutons, mes frères, la parole de Dieu. Nous lirons dans l'épître de Paul aux Éphésiens, le grand hymne du chapitre 1er. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ. Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables sous son regard dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Ainsi il a voulu sa bienveillance à la louange de sa gloire et de la grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes délivrés. En lui, nos fautes sont pardonnées selon la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a prodigué, nous ouvrant à toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître ainsi le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-même pour mener les temps à leur accomplissement, réunir l'univers entier sous un seul chef le Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui aussi nous avons reçu notre part, suivant le projet de celui qui mène tout au gré de sa volonté. Nous avons été prédestinés pour être à la louange de sa gloire, ceux qui ont d'avance espéré dans le Christ. Amen. Nous prions maintenant avec la prière du Seigneur au chapitre 17e de l'Évangile de Jean. Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, à la parole de mes apôtres, croient en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi. Qu'ils soient en nous, eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, comme toi en moi, pour qu'ils parviennent à l'unité parfaite et qu'ainsi le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. L'extraordinaire broussaille de ce texte que nous venons de lire dans l'Épître aux Éphésiens, j'en reprends trois éléments principaux. En Christ, Dieu nous a choisis pour que nous soyons saints sous son regard dans l'amour. En lui, par son sang, nous sommes délivrés et pardonnés. Ainsi, nous a-t-il fait connaître son dessein bienveillant de réunir l'univers entier sous un seul chef, le Christ. Littéralement, de récapituler toutes choses dans le Christ. Seigneur, sanctifie-nous par la vérité. Ta parole est la vérité. Donne-nous des oreilles pour l'entendre. Amen. Ce dimanche, mes frères, est traditionnellement celui de l'unité de l'Église. Dimanche prochain est celui de la mission de l'Église. Quand nous confessons la foi chrétienne avec les vieux symboles de Nicée, nous disons « Je crois la Sainte Église universelle » ou bien « Je crois une seule Église universelle et apostolique ». Ces quatre adjectifs caractérisent d'une manière excellente et suffisante cette Église dont nous sommes les membres et dont nous voudrions une fois de plus tenter de cerner la réalité mystérieuse au cours de ces trois dimanches qui nous sont impartis. Aujourd'hui, nous verrons ce que signifient les termes « une et sainte ». Dimanche prochain, le terme de catholique ou universel, il nous restera pour le dimanche suivant le terme d'apostolique. Il a été convenu de placer cette semaine de l'unité sous le signe de l'espérance, de cette espérance qui ne trompe pas, nous dit l'apôtre Paul, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'unité de l'Église n'est bien entendu qu'une partie de l'espérance, une étape de cette espérance. Mais pour approcher de sa dimension véritable, Pour mesurer l'envergure de l'espérance chrétienne, je ne connais pas de texte plus remarquable que ces quelques versets du premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens qui nous parlent de la récapitulation de toutes choses en Christ. Récapituler signifie placer sous la tête, rassembler sous le pouvoir. Et cette réunion, ce rassemblement, cette unité en Christ constitue, nous dit-on, l'achèvement du dessein de Dieu, l'accomplissement plénier de toutes ses promesses, et par conséquent le terme absolu de notre espérance. Nous ne pouvons rien espérer d'autre, rien espérer de plus. C'est ici que convergent toutes les lignes de la révélation. Tout pouvoir est donné à Jésus au ciel et sur la terre, dit Matthieu. Le Père a remis toutes choses entre les mains du Fils, dit Jean. Dieu a fait Seigneur ce Jésus que vous avez crucifié, disent les Actes. L'unanimité des témoins bibliques est totale. La concordance de leur témoignage irrécusable, la récapitulation en Christ est le sens de l'histoire. Elle est le dernier mot du dessein de Dieu. Elle est le terme de toute espérance vivante, le moteur de tous les courages. Notre réunion dans le règne du Christ, sous son autorité, est la chose la plus inespérément bonne qui puisse jamais arriver. Ce dessein de Dieu est celui de sa bienveillance, de sa grâce et de son amour. Mais comment le savons-nous et comment ce dessein s'accomplira-t-il et qu'y a-t-il donc de si étonnamment merveilleux dans le fait de ce rassemblement que nous puissions y attacher toute notre espérance? Le texte nous rappelle juste auparavant comment les choses se passent, comment, pour que Dieu puisse former ce dessein, nous le faire connaître et l'accomplir, Jésus doit devenir celui au pouvoir duquel tout sera réuni, le libérateur. Car il ne rassemblera pas des esclaves, il ne régnera que sur des hommes libres. L'unité de son peuple est celle d'un peuple libre. Le pouvoir de la récapitulation est aux antipodes de tous ces pouvoirs qui empestent le monde, de tous ces pouvoirs qui tyrannisent, qui exploitent, qui manipulent. C'est le pouvoir du serviteur venu pour donner sa vie en rançon d'une multitude, dit Jésus lui-même dans Marc. C'est un pouvoir qui est pur service de la liberté de l'homme. Plus que cela, c'est un pouvoir qui suscite la liberté, un pouvoir de pure libération, pouvoir qui crée et qui sauvegarde absolument les droits de l'homme. C'est le pouvoir d'un juif martyrisé, le pouvoir de l'homme au monde le plus totalement dépouillé de tout ce que nous pouvons appeler pouvoir. C'est cet homme et nul autre qui peut nous réunir tous. Sur la croix se révèle non seulement l'amour que Dieu nous porte, mais le pouvoir paradoxal de cet amour. Oh, je sais que rien n'est plus difficile que d'associer ces deux termes, car l'amour est justement sans pouvoir. L'amour est don de soi. L'amour est dépendance et humilité. Aimer quelqu'un, c'est vouloir dépendre de lui. L'amour est ce à quoi aucun pouvoir ne peut nous obliger. L'amour se confond avec la liberté d'aimer. Et la toute-puissance de Dieu, enfin ce que nous appelons la toute-puissance de Dieu, ne peut justement rien pour obtenir l'amour d'une seule de ses créatures. Dieu peut ordonner, tempêter, supplier pendant les siècles des siècles, il n'obtiendra pas l'amour d'un seul homme. Aucune contrainte, aucune séduction, aucune pression, aucun chantage n'obtiendront la moindre parcelle d'amour. Pour aimer, il faut être libre d'aimer. Et quel pouvoir peut me rendre libre d'aimer? Et qu'est-ce que je puis faire pour obtenir l'amour de celui qui ne m'aime pas? Écoutez cette petite histoire que raconte Bourseiller dans Le Monde. C'est à l'Odéon, il y a 3 semaines. Le théâtre est plein. Quelques secondes avant que le rideau se lève, un garçon de 20 ans bondit sur l'avant-scène muni d'un mégaphone et il s'écrie « Je voudrais simplement vous dire que j'aime une jeune fille qui est là dans cette loge d'avant-scène. Alors comme elle ne veut plus m'aimer, je voudrais que tous ensemble vous lui disiez « Marie, aime-le, Marie, aime-le. » La jeune fille se lève et s'enfuit. Les machinistes se précipitent et entraînent le jeune homme dans les coulisses. La salle estomaquée reste muette. Personne ne crie « Marie, aime-le !» Mais peut-être quelques spectateurs ont-ils fondu en larmes devant ce garçon qui jouait spontanément un des personnages les plus bouleversants de la comédie humaine. Mais même si le théâtre unanime avait crié « Marie, aime-le !», cela eût-il servi à quelque chose? L'intercession peut-elle provoquer l'amour? Et si, répondant à l'appel de Dieu, tout le théâtre de l'histoire humaine, toute l'Église universelle s'écriait « Marie, aime Dieu !», Pierre aime Dieu, Roland aime Dieu, Nathalie aime Dieu, mon frère, ma sœur, quel que soit ton nom, aime Dieu. À quoi cela même servirait-il, sinon à provoquer notre fuite éperdue? Pourtant l'intercession est bien le recours le plus valable, le plus juste. Mais l'intercession est elle-même, elle seule, sans pouvoir sur l'amour, il faut autre chose. Pour que Dieu puisse nous réunir dans son amour, puisse nous récapituler en Christ. Et nous sommes ramenés encore à notre texte qui contient le mot capital dont il nous faut exprimer, comme on exprime le jus d'une grappe, le secret de l'amour de Dieu. C'est le mot grec d'apolutrosis, que l'on traduit par délivrance ou par libération ou par rédemption. Ce terme en effet contient un mot lutron qui veut dire la rançon. Il s'agit donc d'une liberté due à un prix payé. La rançon, c'est le prix de la liberté. Et c'est le mot le plus important de la Bible. Car ce prix, jamais nous n'aurions pu l'imaginer. Ce n'est pas une somme d'argent, ce n'est pas un château, ce n'est pas une fortune, ce n'est pas une mine d'uranium, c'est du sang. C'est une vie donnée. C'est une mort historique. C'est le sang du Fils unique de Dieu, c'est le sang de Dieu lui-même. Car il a fallu que Dieu meure pour nous laisser ou pour nous rendre vraiment libres de l'aimer. Le prix de notre liberté, quand Paul dit « délivré par son sang », le prix de notre liberté, c'est Dieu lui-même. Mais n'allons pas trop vite. Ce sang qu'on nous jette à la figure est extrêmement désagréable, et cette mort pourrait provoquer les pires malentendus. Le garçon de l'Odéon, au lieu de faire appel à l'intercession des spectateurs, aurait pu dire à Marie « si tu ne m'aimes pas, je me tue. » Le chantage au suicide est bien connu, et c'est la forme la plus subtile de la violence faite à autrui. C'est tenter de le rendre responsable de votre mort, c'est faire peser votre mort sur l'amour qu'il n'a pas pu vous donner, c'est faire de lui votre assassin. il est essentiel de bien se rendre compte que la mort de Jésus n'a rien à voir avec ce chantage. Certes, Jésus meurt volontairement. Il n'est pas victime d'un accident, d'un attentat ou d'une erreur judiciaire. Mais il ne se suicide pas. Il ne désire pas la mort. Au contraire, il accepte avec la plus extrême difficulté cette mort atroce qui approche et à laquelle il pourrait et voudrait de tout son être échapper. Ce n'est pas une rançon à bon marché. Il n'est pas plus facile à Dieu qu'à nous de mourir. Cela lui est même beaucoup plus difficile. N'importe quel soldat de n'importe lequel des champs de bataille de l'histoire, n'importe quel sage à la manière de Socrate, verse son sang beaucoup plus facilement que Jésus-Christ. Quand, suivant la volonté de son Père, Jésus nous délivre en préférant notre liberté à sa vie, cela ne signifie point qu'il fasse bon marché de sa vie, mais que notre liberté lui est plus chère que sa vie, à laquelle il tient plus que nous n'avons jamais pu tenir à notre vie. Notre liberté n'a pas de prix, puisque son prix, c'est Dieu lui-même, c'est le sang du Fils unique torturé. Alors vous voyez comme tout nous est donné dans ce mot de rançon, une délivrance dont Dieu lui-même a payé le prix. Le Dieu vivant meurt plutôt que d'asservir. Il est lui-même en la personne de Jésus notre rançon. Sa mort n'est pas un suicide qui nous culpabiliserait. Elle est notre pardon, elle est la mort de tout ce qui nous empêche de l'aimer et de nous aimer les uns les autres. Le pouvoir et l'amour, ces deux mots qui se contredisent et s'entrechoquent, viennent ici étrangement, et c'est toute la révélation chrétienne, viennent ici s'identifier. Quand Dieu n'est plus rien dans le monde que le cadavre d'un supplicié, son pouvoir n'est plus rien alors que le service et la sauvegarde de notre liberté et la possibilité de cet amour impossible. C'est donc, mes frères, en nous libérant de cette manière que, selon notre texte, Dieu nous fait connaître son dessein de tout réunir sous le pouvoir du Christ. C'est d'ici, de cette délivrance, de ce seuil de la prison dont nous sortons, que nous envisageons la récapitulation, la grande unité des hommes libres, des amants, des saints, au pouvoir du seul Seigneur et la participation de l'univers entier à cette liberté. Ainsi l'Église est une parce qu'elle est libre, parce qu'elle est amoureuse, autrement dit parce qu'elle est sainte. C'est sa sainteté qui fait l'unité de l'Église. L'Église n'est une que parce qu'elle est sainte, parce qu'elle partage le service de Jésus, qui est le service de la liberté et de la joie des hommes, qui se confond avec le service de l'honneur et de la joie de Dieu. Alors, s'il en est ainsi, n'est-il pas évident qu'aucune violence, aucune violation quelconque des droits de l'homme, aucune séduction, aucune manipulation, aucun chantage, aucun abus de pouvoir, aucune oppression, quelle qu'elle soit, ne peut être récapitulée en Christ. Comment celui qui a choisi de mourir plutôt que d'opprimer pourrait-il régner sur des oppresseurs? Comment le tortionnaire pourrait-il être réuni aux torturés sous la tête couronnée d'épines? Comment les loups seraient-ils confondus avec les agneaux sous le règne de l'agneau immolé? Comment puis-je être réuni à mes frères en Christ si je n'ai pas été délivré par sa mort de toute possibilité d'attenter à leur liberté, délivré pour aimer, libéré pour partager ma liberté, pardonné pour pardonner. L'unité de l'Église, c'est la liberté de l'Église, c'est la sainteté de l'Église. Je ne sais pas de pire imposture qu'une unité qui prétendrait réunir en Christ le bien et le mal, le mensonge et la vérité, la victime et le bourreau, l'anti-Dreyfusard et le Dreyfusard, Monseigneur Lefebvre et Monseigneur Camara, comme si Jésus n'était pas mort pour la liberté de tous les hommes, pour la sainteté de tous les hommes, comme s'il pouvait être accueilli dans un monde où l'on serait tant soit peu contraint de l'accueillir, c'est-à-dire où la liberté religieuse ne serait pas entière. Eh bien, et c'est mon dernier point, c'est l'absence de cette sainteté qui défait l'unité de l'Église, bien plutôt que les désaccords sur les définitions eucharistiques et sur la succession apostolique. La présence du Christ dans l'Eucharistie est capitale, bien sûr, mais cette présence, c'est justement la réalité de son sang, c'est-à-dire du prix de ma liberté. Alors, si le sang du serviteur ne me libère pas pour servir et libérer, je n'ai rien reçu, quelle que soit la validité du pain et du vin et des formules de mon orthodoxie. Il n'est d'intercommunion que dans une interliberté, dans une interrepentance et dans une intersainteté. L'intercommunion en elle-même, comme signe d'unité, est dérisoire et tout à fait équivoque. Nous avons le droit, nous, chrétiens réformés, de prendre la scène avec le docteur Forster, avec le pasteur Paisley, avec les membres du Ku Klux Klan, mais non pas avec les martyrs catholiques d'Amérique du Sud, qui, eux, peuvent prendre la scène avec leurs bourreaux, mais pas avec nous. Qu'on ne vienne pas me dire « mais c'est magnifique, le pardon réconcilie tout le monde autour de la table sainte ». Non, 100 fois non, c'est blasphémer le sang du Christ. Je n'ai pas à pardonner au pasteur Paisley, j'ai à demander pardon aux catholiques pour le mal qu'il leur a fait. Je n'ai pas à pardonner au docteur Forster, mais à demander pardon à mes frères d'Afrique du Sud. Je n'ai pas à pardonner aux membres du Ku Klux Klan, mais à demander pardon à toutes les victimes de leur racisme. Je n'ai pas à pardonner à un chrétien antisémite, mais à demander pardon à tous les juifs pour cette honte. Et comment demander pardon, comment demander le pardon du Christ à un opprimé, sans faire tout ce qui est en mon pouvoir pour briser ses chaînes et combattre son aliénation. C'est dans ce combat que se trouve l'unité de l'Église, et non dans des accords de vocabulaire qui peuvent laisser croire que la foi sans les œuvres est vivante et qu'il suffit pour être chrétien de dire « Seigneur, Seigneur » et de répéter à la table sainte « Présence réelle, présence réelle, présence réelle » comme si le Saint-Esprit n'était pas une réalité, et comme si une présence irréelle était encore une présence. Quelque chose ici est à reprendre à la base et sans attendre. La jeunesse, elle, n'attend pas pour envoyer promener des églises dont l'unité ne l'intéresse pas, et c'est normal, ce qui est intéressant, ce n'est pas l'unité, c'est la liberté, c'est le sang de la délivrance, c'est la rançon de la dernière des créatures humaines. L'unité est donnée avec elle, vécue avec elle. La rançon est assez forte, si nous voulons bien en tenir compte, c'est-à-dire être ceux pour qui et à qui la vie de Dieu, la sainteté de Dieu en Christ a été donnée, et qui ne s'enfuit pas, mais qui sortent et qui marchent en dansant de joie sur les chemins de la liberté, qui sont les chemins de toute la terre. La rançon est assez forte, si nous voulons bien la croire et la vivre, pour ressusciter notre espérance, pour lui donner toute sa dimension, et pour emporter les derniers bastions, qui font obstacle au dessein de Dieu de réunir l'univers entier sous le pouvoir du Fils de son amour, Jésus de Nazareth. Amen. Parole que Dieu nous adresse en ce dimanche de la mission, je la lis dans l'évangile de Jean au chapitre 19e et au verset 19. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il portait cette inscription: Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs. Cet écriteau, bien des Juifs purent le lire, car l'endroit où Jésus avait été crucifié était proche de la ville, et le texte était écrit en hébreu, en latin et en grec. Les grands prêtres dirent à Pilate, il ne fallait pas écrire le roi des Juifs, mais qui que cet individu a prétendu qu'il était le roi des Juifs? Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. L'espérance ne trompe pas, car le Saint-Esprit a répandu l'amour de Dieu dans nos cœurs. Tel était le thème de la semaine de l'unité. Nous avons vu dimanche dernier à quel prix cet amour avait été répandu, à quel prix nous avions été rendus capables d'aimer, c'est-à-dire rendus à la liberté. Le prix du sang, le prix de la vie même de Dieu. Si l'Église est une, c'est parce qu'elle est l'Église de ce Dieu-là qui n'a qu'une vie à donner et qui l'a donnée pour faire d'elle une Église libre, amoureuse et sainte. L'unité de l'Église est fondée sur cet acte unique et historique de Dieu donnant sa vie pour la liberté de tous les hommes. Par le même acte, Dieu nous fait connaître son projet de réunir l'univers entier sous le pouvoir de cet amour, fixant ainsi le terme de notre espérance. Il est clair que l'unité et l'universalité de l'Église sont inséparables, qu'on ne peut parler de l'une sans parler de l'autre. Elles ne se confondent cependant pas. La mission de l'Église, c'est justement le chemin qui va de l'unité à l'universalité. Il n'est pas question de recrutement ni de prosélytisme. Il s'agit tout simplement que le Dieu vivant qui n'a qu'un Fils à donner et qui l'a effectivement donné, soit reconnu par tous et aimé par tous. Si l'Église est missionnaire, c'est parce qu'elle est au service du projet de Dieu de réunir l'univers en Christ, de tout récapituler en lui, et que cela ne peut se produire sans une connaissance de l'acte libérateur, autrement dit, sans la prédication de la croix. En ce dimanche, qui est donc celui de la mission de l'Église, où il convient d'élargir notre horizon jusqu'aux confins du monde et de l'histoire, je reprends un texte qui, au contraire, apparemment commence par le rétrécir curieusement notre horizon et nous ramène en ce lieu géographique unique face à l'événement historique unique, en même temps qu'affreusement commun et quelconque, l'exécution d'un condamné. Aujourd'hui, une telle exécution remue l'opinion mondiale. Alors, évidemment pas. C'était chose absolument courante. On comptait les crucifiés par centaines, par milliers dans l'Empire romain. Quant au personnage lui-même, qui donc sait bien de quoi il retourne et même de qui il s'agit, on ne saurait rêver d'événements en soi plus parfaitement insignifiants. Mais voici qu'étrangement, Jean l'évangéliste fait rédiger par Pilate la carte d'identité du condamné. Comme il avait fait autrefois confesser le sens de la mort de Jésus par Caïphe, ne vaut-il pas mieux qu'un seul homme meure pour le peuple? Comme Luc le fera revêtir par Hérode du manteau pourpre de la royauté, et Matthieu fera mettre sur sa tête la couronne royale, une couronne d'épines. Nous sommes dans l'ordre du dérisoire. Les insignes et les titres royaux sont conférés à ce roi de carnaval par ceux-là même qui le torturent et l'assassinent. Tous ces hommes ne savent pas ce qu'ils font ni ce qu'ils disent. Ils ignorent la vérité de leurs paroles et de leurs gestes, et nous aussi d'ailleurs, si les évangiles ne viennent pas nous les faire savoir. Savoir que dans ce carnaval se joue le destin de l'humanité tout entière. Qu'est-ce que la vérité ? Demandait Pilate. L'évangile lui répond. C'est cet écriteau que tu rédiges toi-même pour le clouer sur la croix. Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Sans cet écriteau, ou cette écriture, si vous voulez, la mort de ce supplicié anonyme se perdrait à jamais dans les bas-fonds de l'histoire. Mais grâce à Pilate, l'identité de cet homme est proclamée. Elle ne peut plus nous échapper. Et cette carte d'identité, c'est la confession de la foi chrétienne. C'est la condition de l'unité de tous ceux qui le croient, pas seulement qui lisent ou récitent l'écriteau, mais qui croient que cet agonisant, cet homme nu qui tout à l'heure ne sera plus qu'un cadavre, est bien le roi des Juifs, le roi de ce peuple qui n'a pas d'autre roi que Dieu. Voilà, n'est-ce pas, qui est plutôt gênant pour tout le monde. Les Juifs, d'abord. On comprend leur indignation. Tu ne peux pas laisser ça, Pilate, voyons. Tu nous insultes. Mais Pilate répond, et c'est comme une deuxième confession de foi, ce qui est écrit est écrit. L'écriture est irrévocable. Alors ajoute au moins quelque chose. Ajoute qu'il a dit, lui, qu'il était roi. Pas question de rien ajouter ni retrancher, ce qui est écrit, mais si vous voulez, je peux traduire en plusieurs langues. Tu te moques de nous, ô Pilate, et les sacrificateurs se retirent, en maugréant contre le Romain, confesseur de la royauté juive, rédacteur, traducteur et défenseur de la première écriture chrétienne. L'écriteau restera donc là, traduit en grec et en latin, Les deux langues de grande culture qui permettaient à tous les peuples de l'Empire de se comprendre. En rédigeant l'écriteau, Pilate rédige la charte de l'unité chrétienne. En le traduisant, il en fait la charte de l'universalité de l'Église. C'est prodigieux tout de même, comme tout est réuni sur cette croix. Tout est cloué sur cette croix. L'homme qui va mourir et l'Écriture qui le désigne en toutes les langues, à tous les peuples, comme le roi des Juifs. Pilate, le père des sociétés bibliques. Pilate, le premier traducteur de la première écriture chrétienne. On pourrait presque dire Pilate, le premier missionnaire, si l'on voulait poursuivre cette exégèse dans l'ordre de la dérision. Mais vous savez que le jour de Pâques se lèvera bientôt. Il éteindra toutes les lumières du carnaval. Et l'on verra alors que les personnages du cortège, les fantoches et les baudruches, c'étaient justement les Pilates, les Hérodes, les Caïphes et les prêtres, et non pas le roi des Juifs crucifié qui demeure là au centre du monde, au cœur de l'histoire, coiffé de l'écriteau qui le désigne au monde entier. Il faut nous tenir en ce lieu obstinément, mes frères, car l'unité et l'universalité y sont merveilleusement conjointes, et la mission de l'Église ne sera jamais autre chose que la traduction dans toutes les langues, à toutes les époques, pour tous les peuples et pour toutes les cultures, de la carte d'identité du crucifié. Traduire en parole et en acte le fait que Jésus de Nazareth est bien le roi des Juifs pour tous les peuples. Traduire en des centaines de langues. On sait le travail inouï qui a été fait à cet égard depuis 100 ans. Traduire dans la langue de nos contemporains. Parler leur langage, comme il a bien fallu que Dieu parle le langage d'Abraham, de Moïse, de Jérémie, pour se faire entendre d'eux. Traduire ensemble. Et la traduction œcuménique de la Bible est une bien remarquable étape sur le chemin qui va de l'unité à l'universalité. Oui, mes frères, ne lâchons jamais ce point de départ qui contient tout ce lieu historique et géographique de Golgotha, et justement aussi parce que l'écriteau de Pilate nous gêne sans doute autant que les Juifs, car si les Juifs sont offensés que leur roi soit en condamné à mort, les païens que nous sommes ne le sont pas moins que leur Dieu sauveur soit un Juif. Mon insistance à souligner ce point de départ de la mission tient à ma conviction que c'est l'unique moyen pour l'Église de ne pas perdre son unité en cours de route, en réalisant son universalité, en se dressant dans tous les pays du monde. Car enfin, Tous ceux qui, sur la nef de l'Église, sont ballottés à tous les vents des passions nationales, auront sans cesse besoin d'y revenir et de s'en bien persuader. Jésus, le berger de l'Église, le libérateur du monde, n'est pas une entité internationale ou supranationale, un principe universel, un idéal au nom duquel on échapperait aux contingences et se hisserait par-dessus la mêlée. Il n'est pas non plus un citoyen du monde. Il est bourgeois de Nazareth, d'ascendance davidique, de nationalité juive. Il n'est ni français, ni camerounais, ni polonais, ni japonais, ni russe, ni américain. Indigène de Palestine, c'est là qu'il a été recensé. Né juif, demeuré juif malgré les appels de l'étranger, mort juif et portant son titre dans la mort. Au milieu des peuples qui le rejettent ou qui l'annexent, que faut-il savoir d'autre, en russe, en anglais, en chinois, en portugais, sinon justement que Jésus n'est pas un russe, ni un anglais, ni un chinois, ni un portugais, mais un juif. Il ne meurt ni à Rome, ni à Londres, ni à Athènes, il meurt à Jérusalem. Et Jérusalem, que je sache, n'est pas en Europe. L'Évangile est aussi étranger à l'Europe qu'à l'Afrique. Un christianisme européen ou africain est un non-sens. Il ne peut être qu'hérétique. Il n'existe pas de christianisme occidental, comme on en parle toujours. Il ne peut exister, à proprement parler, qu'un christianisme juif. Car Jésus est bel et bien et seulement le roi des Juifs. Une des trahisons et par conséquent des divisions les plus graves de l'Église, c'est de laisser nationaliser ou naturaliser l'Évangile, qui devient aussitôt une idéologie religieuse au service du pouvoir politique. Vous vous rappelez comme les nazis se sont efforcés de promouvoir un christianisme allemand. C'est pourquoi il leur fallait rejeter l'Ancien Testament. Et Maurras s'efforçait aussi de désémitiser le christianisme pour en faire l'instrument de son nationalisme intégral. Dans n'importe quel peuple, mais spécialement chez ceux dont le jeune nationalisme est péniblement ombrageux, la tentation est grande de brancher l'Évangile sur l'histoire locale et de faire ainsi une lecture païenne de la Révélation, de faire de Jésus le couronnement des valeurs nationales et de prendre ainsi son nom en vain. On le fera d'autant plus volontiers en Afrique, par exemple, qu'on aura pu avoir jusqu'ici l'impression, justifiée ou non, de vivre un christianisme branché sur l'Occident. Alors le salut de l'Église et son unité, c'est le retour à l'unité des deux testaments pour que cette Église se sache toujours branchée sur Israël. Toutes les Églises d'Europe comme toutes les Églises d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique sont des branches de l'unique tronc commun, Israël, où elles ne sont plus des églises chrétiennes. Pour employer l'image de la femme syrienne de l'Évangile que nous avons lu tout à l'heure, elles ne vivent que des miettes qui tombent de la table des enfants juifs. Elles ne vivent que des surplus d'Israël. Rien n'est plus essentiel que de savoir cela. Le passé commun de toutes les églises du monde, le tronc commun du christianisme tout entier, c'est l'histoire d'Israël, cette histoire qui donne son sens au titre de roi des Juifs, porté sur la croix par Jésus de Nazareth, un sens encore une fois proprement inimaginable quand on sait que justement Israël est le peuple qui n'a pas d'autre roi que Dieu lui-même. On ne nous demande pas de conférer à Jésus la citoyenneté de Genève ou la nationalité malgache ou la bourgeoisie de San Francisco, mais bien de comprendre et de faire comprendre à tous les hommes que Jésus leur confère par sa mort la citoyenneté de Jérusalem. La mission de l'Église n'a pas pour but de disperser Jésus, de l'adapter, de le manipuler dans le sens des diverses cultures politiques ou nationales, mais bien de réunir tous les hommes, toutes les cultures, toutes les nationalités sous le pouvoir de son amour, où elles trouveront leur épanouissement éternel. La condition nécessaire et suffisante du maintien de l'unité de l'Église universelle, elle est bien là, dans l'attention constante portée à l'écriteau de Pilate. Nous savons que pour sauvegarder leur unité, les catholiques romains ont le Vatican. Et je suis loin d'ignorer ou de mépriser les immenses avantages que peut avoir pour garantir leur catholicité et leur indépendance le lien que les églises du monde entier conservent par-dessus les frontières nationales avec le Vatican. À cet égard, l'hostilité des pays communistes au Vatican est un bon signe pour ce dernier, car le Vatican est un merveilleux défi à toutes les pestes nationalistes, un signe efficace de l'unité de l'Église universelle. Eh bien, nous n'avons pas cette sauvegarde. Et dans tous les pays où sévit le nationalisme, les églises de la Réforme sont plus en danger d'y succomber que les églises romaines. Je sais que leur lien avec le Conseil œcuménique des églises y supplée dans une large mesure, et c'est une chose importante, et ces liens, vous le savez, il y a quelques années seulement, suffisaient à les faire accuser de trahison dans les démocraties dites populaires. Ne vous faites pas d'illusions, mes frères, le caractère universel de l'Église est séditieux pour tous les régimes policiers et même pour tous les nationalismes. Et c'est pourquoi ce caractère doit être souligné et maintenu d'une manière, je dirais, agressive, envers et contre tout, d'une manière concrète et visible, non pas comme un à côté, mais comme l'essence même de la vie de l'Église. La moindre mise en question de l'universalité de l'Église, c'est-à-dire du droit pour tous les chrétiens, pour tout homme d'abord d'être chrétien avec tous les autres chrétiens du monde, cette mise en question est une destruction de l'Église. Notons d'ailleurs que le caractère juif de cette universalité la rend plus séditieuse et plus scandaleuse encore. Ainsi, si nous n'avons pas, comme les catholiques romains, cette unité par le haut, par la toiture, nous l'avons du moins par le fondement, par l'Ancien Testament. Il me paraît essentiel que Jérusalem joue pour nos églises, pour toutes les églises qui font partie du Conseil œcuménique, le rôle que Rome joue pour les catholiques. Si nos églises se rejoignent par le tronc d'Israël, si elles se rencontrent à Jérusalem, si elles servent vraiment le roi des Juifs, elles seront par là même à l'abri de toute tentation raciste et nationaliste et idéaliste, plongeant leurs racines, non pas dans un paganisme indigène, ni dans une quelconque idéologie politique ou religieuse, mais dans l'histoire du peuple juif dont Jésus est le roi, ces églises sont à même d'affronter en toute sécurité, en toute liberté, en toute clarté, n'importe quelle situation politique et nationale, n'importe quelle civilisation, n'importe quelle culture, n'importe quelle religion. L'affronter, c'est-à-dire demeurer en toutes circonstances l'Église une et universelle le corps crucifié et ressuscité du roi des Juifs. Fondamentalement, ce n'est donc ni Rome, ni Genève, ni Nairobi, ni New Delhi qui sauvegardent l'unité de l'Église missionnaire et universelle, c'est Jérusalem. Ou si l'on préfère, la croix plantée à Jérusalem avec l'écriteau cloué dessus. Le secret de l'unité de l'Église universelle, comme le secret de l'universalité de l'unique Église, c'est la carte d'identité du crucifié, traduite dans notre langue et dans toutes les langues. Amen. Parole que je voudrais vous dire de la part de Dieu en ce dimanche matin, c'est celle que nous avons lue au chapitre 1er de l'épître de Paul aux Corinthiens, dans la première épître, au chapitre 15, verset 13, « Si Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à prêcher et vous n'avez rien à croire. » L'Église sainte, une et universelle, c'est l'Église apostolique. C'est cet adjectif qui caractérise de la manière la plus précise l'Église chrétienne, à la fois dans son origine et dans sa fonction. L'Église est apostolique parce qu'elle est issue du témoignage des apôtres, c'est-à-dire des envoyés de Jésus-Christ, parce qu'elle demeure sous l'autorité de ce témoignage, et parce qu'elle est elle-même envoyée, et que sa mission, comme nous l'avons vu dimanche dernier, est de rendre universelle son unité, de traduire dans toutes les langues et pour tous les peuples l'évangile du crucifié. Mais mes frères, qu'est-ce que les mots veulent dire encore? Et où se trouve le coffre-fort qui résistera à l'effraction des cambrioleurs du langage? Vous avez vu il y a quelques jours que les crapules franquistes qui ont assassiné à Madrid les quatre avocats des syndicats s'appelaient groupe apostolique, apparenté sans doute à cet autre groupe de tueurs et de tortionnaires qui s'intitule les guérilleros du Christ roi. On l'a bien fait descendre de la croix, n'est-ce pas, ce Jésus de Nazareth. Point de limite à l'imposture. Tu ne prendras pas en vain le nom du Seigneur. Oui, comment ne pas prendre en vain? Comment ne pas utiliser à tort et à travers? ce terme d'apostolique. Comment ne pas déshonorer sans cesse le Seigneur par notre langage, par nos abus de langage. Dans l'embarras du choix d'un des nombreux textes bibliques qui pourraient nous aider à réfléchir convenablement à l'apostolicité de l'Église, je me suis reporté tout d'abord, comme il convient, au texte du jour, qui se trouve être, je ne sais pas pourquoi, puisque nous ne sommes pas dans le temps de Pâques, mais enfin qui se trouve être une portion de ce fameux chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens sur la résurrection des morts. À première vue, rien à voir avec notre thème de l'apostolicité. Il faut chercher ailleurs. Mais à y réfléchir, je me suis aperçu que la fameuse phrase « Si Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à prêcher et vous n'avez rien à croire » pourrait bien être indirectement un moyen remarquable de définir et de cerner le caractère apostolique de l'Église. Étymologiquement, apôtre, c'est un envoyé, tout simplement. Mais dans le Nouveau Testament, le terme se charge d'un poids très particulier. C'est l'envoyé qui fut témoin oculaire de la résurrection. C'est l'envoyé du ressuscité. C'est l'envoyé dont la seule raison d'être, et toute la raison d'être, s'évanouit, s'anéantit, si Jésus n'est pas ressuscité. Quoi qu'il puisse dire alors, et quelle que soit la ferveur de son témoignage, l'apôtre est un faux témoin, l'apôtre est un imposteur. Et l'Église d'un tel apôtre ne serait justement pas l'Église apostolique. Elle n'aurait rien à croire, sa foi serait illusoire, comme nous l'avons lu encore. Si Jésus n'est pas ressuscité, la foi chrétienne n'est qu'une fantastique illusion. C'est curieux, n'est-ce pas ? Nous avons toujours l'impression inverse. Que la résurrection est peut-être une énorme illusion, mais que nous pouvons toujours, du moins, nous replier sur la réalité, sur la vie exemplaire de Jésus, sur sa mort édifiante, sur son sacrifice, sur ses merveilleuses paroles. Baratin que tout cela, nous dit l'apôtre. Tout est illusion, et particulièrement le christianisme est illusion. Sans la résurrection, dégrisez-vous, écrit-il même aux Corinthiens peu après. Personne, bien sûr, ne sait ce que c'est que la résurrection, ni vous ni moi n'en avons la moindre idée. Tout ce que nous pouvons en savoir, c'est que c'est l'événement qui, pour les apôtres, donne tout son poids, tout son sens, toute sa réalité et toute sa vérité à la vie et à la mort de Jésus de Nazareth et aussi à toute l'histoire du peuple d'Israël et à travers cette histoire, à l'histoire de tous les peuples et à la création tout entière. Et c'est par conséquent l'événement qui donne tout son contenu à la prédication apostolique et à la foi de l'Église apostolique. Ainsi, lorsque les Corinthiens contestaient la résurrection, sans doute parce qu'ils jugeaient superflu de faire ressusciter une âme immortelle, ils annulaient la raison d'être de l'apôtre Paul et de l'Église issue de son ministère. Ils enlevaient tout sens à sa prédication et tout contenu à la foi de l'Église. C'est en tout cas ainsi que l'apôtre ressent, comme une agression fondamentale contre son existence d'apôtre et contre l'existence de l'Église apostolique, cette sorte d'évacuation de la résurrection par les Corinthiens, pour qui elle était un superflu de la révélation, enfin une vérité supplémentaire et facultative. L'Église est donc dite apostolique. parce que son existence dépend de la prédication apostolique, laquelle dépend totalement et exclusivement de cet événement qui échappe à toute investigation historique et qui s'appelle la résurrection de Jésus d'entre les morts. Résumons-nous, sans apôtres, il n'y aurait pas d'Église, et sans la résurrection, il n'y aurait pas d'apôtres, pas de message apostolique, pas de Nouveau Testament, car Jésus ne serait pas le roi des Juifs, ni le Fils de Dieu, ni le Sauveur du monde. Que l'Église soit apostolique nous rappelle qu'elle n'a rien de commun avec une religion qui aurait été fondée par un nommé Jésus de Nazareth, mort martyr sous Ponce Pilate. Jésus n'a rien fondé du tout. Il ne laisse derrière lui, en mourant à 30 ans, que le désarroi le plus total. Il laisse sans réponse le dernier pourquoi de sa souffrance et sans raison le non-sens de son échec. Et même la résurrection n'est pas l'événement fondateur. Jésus ressuscite et il n'y a toujours pas d'Église. Le ressuscité ne fonde pas l'Église. Il n'apparaît pas aux foules pour les convertir. L'Église n'est pas le témoin direct de la résurrection. Elle ne naît pas à Pâques. Elle naît à Pentecôte. Quand le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans le cœur des apôtres avec l'espérance qui ne trompe pas et qu'il en fait les prédicateurs de l'Évangile, ils deviennent alors capables de prêcher toute la parole de Dieu, c'est-à-dire la résurrection du crucifié et la croix du ressuscité. C'est l'Esprit qui fonde leur ministère et leur vocation d'apôtre sur la certitude inébranlable et absolument jubilante que le supplicié de Golgotha est bien ressuscité, c'est-à-dire qu'il est bien le roi des Juifs, qu'il portait bien son titre en vérité sur la croix, que sa mort avait un sens, le sens de notre libération à tous. Mais l'Église apostolique, encore une fois, n'est pas issu d'une rencontre directe avec un homme sorti de son tombeau. Une telle rencontre du ressuscité avec la foule n'aurait rien produit d'autre que si Jésus était descendu de la croix. Phénomène époustouflant de séduction et de contrainte, mais ne produisant rien de décisif. Jésus le disait lui-même, vous l'avez entendu, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, et nous pouvons ajouter et les apôtres, il ne serait pas convaincu. Quand même un mort ressusciterait. Quand même un mort ressusciterait. C'est étrange, n'est-ce pas? D'une part, Paul nous dit, si Jésus n'est pas ressuscité, vous n'avez rien à croire ni à espérer. D'autre part, Jésus nous dit, la résurrection d'un mort ne convaincra personne, ne nous donnera pas la vraie foi. Nous voilà bien mal en point. Si Jésus n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à croire, mais sa résurrection, quand bien même elle serait prouvée historiquement, ne nous fera jamais croire. Alors vous voyez, mes frères, maintenant comment et pourquoi l'Église ne peut être qu'apostolique. Elle ne peut naître que du message des apôtres, qui n'est pas du tout la simple annonce d'un prodige, mais qui est l'interprétation, je dis bien l'interprétation de la vie et de la mort de Jésus et de l'histoire d'Israël, à la lumière de cet événement incompréhensible de Pâques. Le Nouveau Testament, le message apostolique, c'est une lecture de l'Ancien Testament faite à la lumière de la résurrection du crucifié. L'Église n'est pas la religion de Jésus et surtout pas la religion d'un Jésus ressuscité. Elle est apostolique parce qu'elle est née de l'interprétation que les apôtres ont donnée du passé récent et du passé ancien d'Israël à travers la résurrection de Jésus. Étant donné qu'il est vivant, et non seulement vivant, mais qu'il est le vivant, étant donné qu'il n'est pas seulement ressuscité, mais qu'il est la résurrection, étant donné qu'il est le prince de la vie, comme dit encore le livre des Actes, le prince de la vie, qu'est-ce que cela veut dire? Que nous l'ayons crucifié, qu'il soit mort à 30 ans aux mains de ses tortionnaires, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, l'Église vit de l'écoute de cette question et de la réponse donnée par les apôtres. Si Jésus n'est pas ressuscité, il n'y a évidemment pas de question du tout. Mais sa résurrection ne parle pas toute seule. Elle n'est pas elle-même la réponse. La réponse, encore une fois, c'est la réflexion des apôtres sur la mort du ressuscité. C'est cette découverte inouïe qu'ils font dans la lumière de Pâques, que sur la croix, Dieu paye de sa propre vie le pardon et la liberté de la dernière de ses créatures. Une découverte qui ne les détache pas de la croix, qui en souligne le permanent scandale et qui surtout n'en fait pas descendre Jésus. Le ressuscité, comprenez-le, je vous en prie, c'est ce qu'il y a de plus important tant à comprendre dans tout le christianisme. Le ressuscité est précisément celui qui ne descend pas de la croix, qui n'exauce aucune convoitise religieuse et qui ne cesse de faire de sa vie l'enjeu de notre vie. L'événement de Pâques ne détourne pas les apôtres de la croix, mais les tourne vers elle. Il ne l'efface pas, mais l'exalte, la croix, pour l'éternité. Les apôtres interprètent la résurrection quand ils disent « Tout pouvoir est donné aujourd'hui sur la terre à celui qui meurt cloué sur la croix et qui donne sa vie pour la liberté du monde. L'empire du monde appartient non pas au loup dévorant ni au lion rugissant, mais à l'agneau immolé. Dieu n'a jamais eu et n'aura jamais d'autre puissance que celle de cet homme au comble de l'impuissance. Dieu n'aura jamais d'autre justice que celle de ce juste qui nous justifie en nous jugeant. Il est ressuscité pour notre justification. » Oui, tout cela, mes frères, c'est la découverte et la réflexion des apôtres et des premières communautés apostoliques. L'Église postérieure, notre Église aujourd'hui, ne peut que réfléchir sur cette réflexion, la reprendre, la fouiller, l'apprécier, la transmettre, la traduire, enfin ce que nous essayons de faire. Mais son caractère apostolique interdit à l'Église toute prise directe, toute mainmise sur Jésus, toute manipulation de Jésus. Jésus n'est pas l'auteur de la Bible, il n'a rien écrit, il n'est pas le fondateur de l'Église, il en est le fondement, ce qui est tout autre chose. Jésus n'est rien pour nous qu'à travers les apôtres, et l'Église n'est rien qu'apostolique. Elle n'est une, sainte et universelle, que dans la mesure où elle partage la foi des apôtres et dans la mesure où elle joue avec eux son existence sur la résurrection du crucifié. Pour bien s'en tenir à la stupéfiante affirmation de Paul, si Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à prêcher, on pourrait presque dire que pour nous, la résurrection, c'est l'explication apostolique de la croix. Et que sans cette explication, la croix n'a aucun sens, et que sans cette explication, nous ne pouvons que nier ou fausser ou trahir ou tordre ce que le Nouveau Testament appelle la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. J'espère vous avoir utilement rappelé le poids de cet adjectif apostolique et le rapport existentiel qui lie l'Église aux apôtres. Il s'agit de son origine permanente et de l'autorité qui ne cesse de la gouverner. Si vous vous demandez comment être aujourd'hui cette Église apostolique, je ne puis que vous répéter en écoutant la question et la réponse des apôtres, en lisant avec eux l'Écriture et en la traduisant de toutes les manières possibles. Si je pouvais entrer dans le concret de la vie de nos paroisses, je leur demanderais dans quelle mesure elles sont attentives à l'unité si diverse et à la diversité si unanime des rédacteurs du Nouveau Testament. Que ces rédacteurs aient été les apôtres eux-mêmes ou les porte-plumes, les secrétaires d'une communauté apostolique, cela n'a que très peu d'importance. L'essentiel, c'est que nous avons dans le Nouveau Testament la lecture apostolique de l'Ancien Testament et l'interprétation apostolique de la vie et de la mort de Jésus, en particulier l'exégèse de cette première écriture chrétienne qu'est l'écriteau de Ponce Pilate. Il n'y a pas succession apostolique dans ce domaine de l'origine de l'Église et de l'autorité permanente qui la gouverne, car l'Église reste soumise aux apôtres directement dans son écoute de l'Écriture. L'exégèse apostolique des événements de la Semaine Sainte ordonne la foi et la vie de l'Église continuellement. Elle n'en finira jamais de sonder les Écritures pour y exploiter le trésor inépuisable de la justice et de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et nous n'aurons jamais fini d'en exploiter la nouveauté, jamais fini d'en tirer les conséquences pour notre vie et pour la vie sociale et politique. À quelle autre écriture irions-nous demander de nous renseigner sur Jésus de Nazareth? Qui pourrait ajouter ou retrancher quelque chose à ce que nous disent les apôtres de la royauté du serviteur Jésus? Les apôtres n'ont pas de successeur en ce sens. Et leur exégèse des faits évangéliques règne directement sur la pensée et sur la vie de l'Église, qui autrement n'est pas l'Église apostolique. Oui, l'Église sera fidèle, active et joyeuse, une, sainte et universelle. Dans la mesure même où, écoutant les apôtres dans l'Écriture et partageant leur foi, elle sera l'Église qui n'a rien à prêcher et rien à croire si Jésus n'est pas ressuscité, mais qui a tout à prêcher, tout à croire, tout à aimer, tout à espérer, s'il est bien le roi des Juifs et le libérateur du monde. Et alors, ce sera mon dernier mot, alors, mais seulement alors, l'Église, apostolique dans son origine et dans sa soumission, le sera aussi dans sa raison d'être, dans sa fonction, dans le témoignage de sa parole et de son action, dans sa mission libératrice auprès de tout homme dans tous les pays du monde, dans son combat pour les droits des plus pauvres et des plus faibles. L'Église ne peut être à l'écoute des apôtres sans être comme eux envoyée à travers toutes les barrières et toutes les frontières. En ce sens, elle leur succède, oui. Il y a succession apostolique dans la mission de l'Église. Oui, il y a plénitude de la succession apostolique partout où l'Esprit du Seigneur envoie l'Église annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer la libération aux captifs, renvoyer les opprimés en liberté. Où que soit un opprimé dans le monde, il ne peut y avoir auprès de lui une église apostolique qui ne le fasse sortir ou qui ne se fasse opprimer avec lui. Amen.